RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. L'écrivaine Nancy Houston le décrit si bien dans son essai « L'espèce fabulatrice » publié chez Actes Sud. Nous, les humains, sommes la seule espèce à percevoir notre existence comme une trajectoire de la vie à la mort. Une forme qui se déploie dans le temps avec un début, des péripéties et une fin. En d'autres termes, un récit. Le sens humain, écrit-elle, se distingue du sens animal en ceci qu'il se construit à partir de récits, d'histoires et de fictions. Et c'est pour cela que l'idée de créer des procès du siècle fictif pour mettre l'humanité face à ses responsabilités est géniale. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, un procès en public enregistré à Marseille dans l'auditorium du MUCEM. Et ensuite, eh bien, c'est à vous de juger.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour à tous. L'audience est ouverte. L'accusé à la barre, c'est l'humanité. 200 000 ans d'existence et nous voilà près de 8 milliards d'Homo sapiens à vivre à la surface de la Terre. Et les victimes, ce sont les oiseaux. Alors soyons clairs, l'ampleur du crime est inédite. Selon BirdLife International, près de la moitié des 11 000 espèces d'oiseaux répertoriées sur Terre sont actuellement en déclin. En Europe, 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Je m'arrête là car les experts qui vont témoigner au cours de ce procès dresseront un tableau détaillé de la situation et de ses causes. Ils produiront devant vous des pièces à conviction car oui, mesdames et messieurs, nous connaissons les coupables. L'agriculture intensive, la déforestation, la chasse, le changement climatique. Mais cette quatrième saison des procès du siècle, organisée chaque lundi ici à Marseille par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, chaque lundi, donc, ces procès sont placés sous le signe de l'utopie. Car nous pouvons arrêter ce carnage. Et ceux qui s'y attellent nous montrent le chemin. Des témoins seront appelés à la barre. Ils peuvent influencer le jury et peut-être espérer obtenir des circonstances atténuantes pour une humanité qui doit de toute façon, pour assurer sa survie, se réconcilier avec le vivant. Alors allons-nous aboutir à un verdict ? L'objectif est au moins que chaque spectateur et chaque auditeur se forge son propre avis. Mesdames et messieurs, je déclare le procès du siècle, l'humanité face aux oiseaux, ouvert. Et j'invite tout de suite nos deux experts à me rejoindre. Frédéric Giguet, professeur au Muséum français d'histoire naturelle, chercheur en biologie de la conservation. Et vous avez dirigé le centre de recherche pour la biologie des populations d'oiseaux. Je vous en prie, installez-vous. Et j'invite notre deuxième expert, Sébastien Blache, à entrer sur scène, écologue et agriculteur. Et c'est en 2006 que vous avez repris avec votre compagne Elsa Gartner, qui est dans la salle, la ferme de votre grand-père, 11 hectares de monoculture de céréales. 17 ans plus tard, la ferme du Grand Laval, située à Montélier dans la Drôme, dans le sud-est de la France, s'étend sur 50 hectares. C'est une exploitation agricole bio en polyculture élevage avec 120 brebis, 180 poules pondeuses, des vaches, des chèvres et des oiseaux qui reviennent nicher dans les champs. Vous avez aussi créé l'association Rien sauvager la ferme avec le philosophe Baptiste Morisot. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais pour introduire les débats, chers experts, j'aimerais que vous nous disiez ce que ce procès représente pour vous. Frédéric Giguet.
Pour moi, à travers alors, mes activités, ma passion pour les oiseaux depuis tout petit, la compréhension que j'ai, ce procès, c'est une incroyable opportunité de sensibiliser, de continuer à alerter sur la sixième extinction qui est en cours, mais qui n'a pas lieu dans les forêts tropicales lointaines, qui a lieu devant chez nous tous les jours. Et contre laquelle il existe des solutions. Donc je pense que c'est une formidable opportunité d'échanger, de communiquer sur tout ce qui va très mal et toutes les solutions qu'on a déjà trouvées qui pourraient faire que ça pourrait aller mieux.
Sébastien Blache.
Bonjour à tous. Moi, je ne m'attendais pas en fait, à vivre ça dans ma vie, en fait, à vrai dire. En 30-40 ans d'ornithologie, j'ai vu, moi, disparaître les oiseaux des champs. Et j'ai l'impression que là, on est à un tournant, c'est-à-dire qu'il se passe des choses très, très positives. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on voit. Et par contre, quand on ouvre les yeux autour, on décrypte en fait un petit peu la sidération de ces champs vides d'alouettes, de tous ces oiseaux qui ne sont pas là, en fait, quoi.
Alors, pour comprendre l'ampleur du crime, il faut évidemment commencer par énoncer les faits, mesdames et messieurs, c'est la logique d'un procès. Frédéric Giguet, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau de la situation?
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des réseaux de naturalistes qui comptent les animaux, les plantes, depuis un certain nombre d'années, des programmes de sciences participatives. Sur les oiseaux, on a la chance d'avoir en Europe des programmes qui sont en place depuis les années 60 et en France depuis 1989 exactement, avec des comptages chaque année d'oiseaux au printemps sur les mêmes sites par les mêmes personnes. Et l'alouette des champs, par exemple, une espèce de milieu agricole, c'est un oiseau, si vous allez dans les champs, vous allez en entendre. Il y a 10 ans, on en entendait, il y a 20 ans, on en entendait. Mais si on ne les a pas comptés, on ne se rend pas compte que, année après année, le nombre d'alouettes diminue de 1 à 2% depuis 30 ans en France. 1 à 2% chaque année en moins, ben ça finit par faire beaucoup d'alouettes en moins, sauf qu'on ne s'en rend pas compte si on n'a pas ces comptages, parce qu'il y a toujours des alouettes. Et donc on a comme ça une collection d'espèces où on va s'apercevoir qu'on a perdu alors beaucoup d'espèces spécialistes, les espèces qui ont des habitats particuliers, qui aiment le chaud, le froid, les milieux très ouverts, les milieux agricoles, les milieux forestiers, les vieilles forêts. Ben, comme les habitats se dégradent, toutes ces espèces déclinent, disparaissent. La moitié des espèces du monde sont dans ce cas-là, déforestation, urbanisation, intensification agricole, changement climatique, le problème des espèces introduites sur les îles notamment. Et donc on a des constats dramatiques d'un grand nombre d'espèces qui sont en déclin et quelques espèces qui s'en sortent. Mais finalement, ça va avoir plein de conséquences. Ces oiseaux, ils participent à un équilibre des écosystèmes. Ils mangent des insectes ravageurs, ils dispersent des graines. Et si on les perd, on perd aussi tous ces services. On a des écosystèmes qui se simplifient, qui deviennent moins fonctionnels. On va dire que les oiseaux sont un peu les témoins de cette dégradation globale de tout notre environnement.
Sébastien Blache, est-ce que cet état des lieux fait écho à ce que vous constatez autour de chez vous dans la Drôme ?
Alors nous, dans la Drôme, mais comme un peu de partout, on observe une disparition très très forte des oiseaux des milieux agricoles, ça c'est très clair. Et puis là où ça trompe un peu, c'est qu'on y a assisté. Moi, il y a longtemps, je baguais les oiseaux et j'ai bagué le premier vautour nicheur dans les Alpes. Aujourd'hui, on voit des vautours absolument de partout. Et on a l'impression qu'il y a toujours eu des vautours. Et les grands rapaces, globalement, parce qu'il y a eu des efforts de protection très fortes, et puis parce qu'on avait bien identifié les causes de disparition, se portent plutôt pas trop mal. Et par contre, dans la garrigue, il n'y a plus un bruit ortolant qui chante. Nous, ce qu'on observe, en tout cas, dans la vallée dans laquelle on est, c'est une simplification terrible des habitats, sous la pression de l'urbanisme et puis les changements de pratiques agricoles. Ça se dirige vraiment vers une agriculture extrêmement simplifié, plus besoin de haies, plus besoin de ruisseaux qui soient fonctionnels, plus besoin de tout ça, quoi. En fait, c'est des champs qui sont amendés et irrigués, et on produit dedans des céréales, des oléaprotéagineux, c'est-à-dire du tournesol, du maïs et du blé, en gros, quoi, hein, pour l'élevage qui est lui-même en bâtiment.
Frédéric Giguet, vous êtes venu avec des pièces à conviction, alors que nous allons voir sur l'écran qui se trouve derrière nous. Première pièce à conviction, une photo des courlis à bec grêle. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'apporter cette pièce à conviction.
C'est la dernière observation de cette espèce en France. C'était en baie de l'Aiguillon. Et la dernière observation au monde de cet oiseau, c'était en 1994 au Maroc, sur la lagune de Merjazerga, où quelques individus continuaient à hiverner. Et depuis, plus personne n'a observé cet oiseau au monde. C'est une espèce qui migrait pour venir hiverner en Afrique du Nord et qui était au 19e siècle assez commune en France. Enfin, on en trouve dans toutes les collections de muséums de région. On suppose que sa disparition est liée à l'assèchement de grandes zones humides. L'espèce était aussi chassée. Alors, ce n'est pas la chasse qui l'aura définitivement fait disparaître. Mais en fait, c'était pour montrer un peu alors, vers quoi on tend si on continue à dégrader à ce point notre environnement et à sécher les zones humides et à utiliser des pesticides, à détruire les populations d'insectes, c'est que petit à petit, ces populations n'arrivent plus à se renouveler. Il n'y a plus assez de jeunes produits pour remplacer les adultes qui vieillissent et elles vont s'éteindre. Alors.
Cette dernière pièce à conviction que vous avez apportée est une tapisserie des hospices de Beaune.
Pour montrer l'importance dans nos cultures, on va dire judéo-chrétiennes occidentales, de certaines espèces d'oiseaux et aux hospices de Beaune, on a une tapisserie avec saint Antoine qui a été donc faite, cette tapisserie, par Rollin, le fondateur des hospices. Il a fondé ces hospices en l'honneur de son épouse, Guigonne. En fait, l'explication de cette tapisserie, donc saint Antoine qui est le patron des malades, de la médecine, etc., et les tourterelles des bois qui sont partout représentent, c'est un symbole de l'amour, de la fidélité et de l'amour indéfectible entre Rollin et Guigonne. On a cette espèce qui est une symbolique très forte. On a aussi des tableaux de la tourterelle des bois qui revient sur le bateau de Noé après le déluge et qui va être, en fait c'est la colombe qui part, mais il y a beaucoup de tableaux qui représentent cette colombe comme étant la tourterelle des bois. Donc il y a une valeur symbolique dans notre culture qui est aussi très forte de cette espèce, et c'est aussi ça qu'on est en train de perdre, on va dire. En tout cas, il ne nous restera peut-être que ça pour parler de la tourterelle des bois à l'avenir.
Voilà, les faits sont désormais énoncés. Alors essayons maintenant de déterminer qui sont les coupables, même si nous l'avons déjà un petit peu évoqué. Et pour cela, j'appelle un premier témoin à la barre. Alors ce témoignage a été préparé par les participants de la commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est un atelier proposé chaque samedi au public du MUCEM pour s'exercer à l'art de la rhétorique et puis aussi pour mener l'enquête sur les thématiques des procès. Chers témoins, vous avez la parole.
Bonjour, donc je m'appelle Barbara. Ce soir, pour vous, je vais être Nina. Et donc j'ai écrit une lettre à Monsieur le maire. Monsieur le maire de toutes les vivantes et les vivants de Marseille, bonjour. Moi, c'est Nina. Je suis une pigeonne un peu dodue qui vit dans une coloc sous les combles au 32 rue Paradis. On y fait dortoir avec mon pigeon et 6 autres colocs. Alors jusqu'à maintenant, la vie pour nous, c'était vraiment cool. Le petit-déj, juste un piqué dans le vide pour finir le reste des frites du camion pizza d'en bas. Balade, picorage toute la journée. Et le soir, oh, 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 câlin. Bref, rien à redire. Mais depuis la semaine dernière, en rentrant d'une sortie au parc Borély, là, surprise. Les boomers du syndic nous avaient installé des pics partout, devant chez nous, sur les corniches. Parce que soi-disant, chez nous, c'est dégueulasse. Alors qu'en vrai, nous, on trouve que ça passe. Bref, on s'est retrouvés expulsés sanitaires. Alors, on est allé se réfugier place du Général de Gaulle, et là, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls. Des dizaines de milliers de familles de pigeons à garde qui ont commencé à discuter. Et les témoignages convergent. En fait, il semblerait qu'il y ait un plan de destruction à notre encontre, avec des poses de piques, des installations de pigeonniers pour qu'on puisse couver ailleurs. Bon, en fait, c'est pour détruire nos œufs. Et il paraît que c'est vous, Monsieur le maire, qui est responsable de tout ça. J'ai donc été déléguée pour engager des discussions avec vous et j'ai arraché ma plus belle plume pour vous écrire cette missive que je me ferai un plaisir de vous déposer moi-même à la mairie. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler 2 ou 3 trucs. Nous, les pigeons Bizet, nous avons quand même une longue histoire avec vous, les humains. Vous nous avez attirés avec dans vos cours avec vos graines, il y a déjà un bon moment, et puis vous nous avez domestiqués, manger ou mis au travail. Voyageurs infatigables, nous avons porté vos messages à travers les tempêtes et sous la mitraille en fidèles serviteurs. Vous ne faisiez pas la fine bouche à l'époque. Du jour au lendemain, un de vos congénères invente le télégraphe. Et nous voilà devenus bouches inutiles à nourrir. Vous ouvrez nos cages et nos pigeonniers et nous voilà rendus à notre liberté. Mais nous, on vous aime. Et à quoi bon la liberté? Vous nous avez fait venir. Nous, on est bien avec vous, là, dans vos belles villes. Alors, c'est quoi le problème de notre cohabitation? Vous nous reprochez d'être sales, d'être moches, de chanter faux, voire de ne pas chanter du tout. Sales? Parce qu'en fait, on fiente sur les carrosseries des belles voitures de vos électeurs, quand vous vous déversez des mégatonnes de pollution dans tout ce qui vous entoure. Moches? C'est une question de goût, monsieur le maire. Moi, mon Roméo, il me plaît bien et je crois que je ne le dégoûte pas trop non plus. On chante faux? Alors, c'est vrai, on n'a pas le chant du rossignol, parce que nous, on roucoule. Mais finalement, du roucoulement au ronronnement du chat, il n'y a pas une grande différence. Et le chat, ça n'a pas l'air de vous gêner, en fait. Alors quoi ? En fait, vous seriez des défenseurs du vivant, propres sur soi, beaux et talentueux. Donc nous, on a juste un message à vous faire passer. Si vous voulez que vos miettes, vos déchets, vos frites froides ne vous gâchent pas ni la vie ni la vue, il faudrait voir désormais à respecter un petit peu les relations de bon voisinage. Et si ce n'est pas clair pour vous, on peut toujours organiser un sitting sur le balcon de votre bureau. Et croyez-moi, on peut venir nombreux. Il y aura tellement de pigeons qu'on ne verra même plus la mairie. Merci.
Nina, la pigeonne de Marseille. Sébastien Blache, comment vous réagissez à ce témoignage ?
Ben moi, le pigeon, en tant qu'agriculteur, c'est une espèce avec laquelle j'ai beaucoup de liens. Je pense que c'est un oiseau qui, effectivement, qui a été domestiqué. Il reste des espèces sauvages aussi. Et l'espèce domestiquée, elle a vraiment une histoire avec nous. Même si maintenant, elle se perd un petit peu, il y a quand même toujours des peuples qui ont un lien très, très étroit avec le pigeon, l'art de la colombophilie, pour ne serait-ce qu'admirer des vols continus dans le ciel. Enfin bref, je trouve ça très beau.
Frédéric Giguet, vous avez travaillé sur les pigeons et les pigeons parisiens. Alors, est-ce que leur vie est la même qu'à Marseille ?
Oui, c'est la même. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que ce qu'on a fait à Paris, c'est qu'on s'est aperçu, bien sûr, comme partout, qu'il y avait des pigeons à qui il manque plein de doigts aux pattes. Et les gens pensent que c'est parce qu'ils sont très sales, qu'ils ont ont des maladies, des lèpres, des bactéries qui rongent leurs doigts. Enfin, ils vivent dans leurs excréments et c'est terrible. Et en fait, quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de traces de garrot sur les doigts des pigeons et qu'on voit même beaucoup de pigeons avec des petites ficelles ou des cheveux qui sont entourés autour des doigts. Donc on est allé compter dans une quarantaine de quartiers parisiens le nombre de doigts aux pattes des pigeons. Super. Après, au moins 10 pigeons pour chaque sortie. Et on note tout ça. Et après, on a croisé ces bases de données avec des tas de données qui existent dans Paris sur le nombre de commerces par quartier. Après, vous avez des données sur les volumes de déchets évacués, le nombre de personnes qui entrent et qui sortent des bouches de métro. Donc vous avez des moyens d'estimer si c'est des quartiers où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de résidences, beaucoup de commerces, etc. Et on a trouvé un lien entre le nombre de doigts aux pattes des pigeons et deux variables. La première, c'est les espaces verts. Plus il y a d'espaces verts, plus il y a de doigts aux pattes des pigeons. Mais ça laisse penser que s'il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'espace, les pigeons qui marchent tout le temps au sol, sur les trottoirs, eh ben, ils arrivent à garder leurs doigts. Et par contre, plus il y a de coiffeurs, et donc de cheveux, de déchets cheveux, dans les poubelles et sur les trottoirs, moins il y a de doigts aux pattes des pigeons. C'est effectivement à force de marcher sur le sol tout le temps que les pigeons se prennent les doigts dans nos déchets, nos cheveux, nos ficelles, qu'en général, ça passe, ça tombe, mais que des fois, ça s'entortille. Si ça s'entortille, ils vont essayer de tirer dessus pour l'enlever, ça serre, et en fait, ça fait un garrot, le doigt nécrose et tombe. Et en fait, ces pigeons ne sont pas malades, lépreux, mais ils sont des victimes de notre insalubrité, entre guillemets.
Et alors, on entend bien donc cohabiter en ville, c'est compliqué, mais alors à la campagne, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que plus il y a de coiffeurs, moins les pigeons ont de pattes, mais plus il y a d'agriculture intensive, moins il y a d'oiseaux. Sébastien Blache, on peut dire ça comme ça ?
Oui, bah c'est pas moi qui le dis. Hein. Le Muséum, ça a été les premiers qui ont montré ça. Moi, effectivement, la première fois que j'ai réalisé, c'est quand le Muséum a publié une étude sur les pies. Justement, les premiers indicateurs, il y avait une thèse qui se faisait à ce moment-là, là, de François Chiron, et ils annonçaient une dégradation incroyable des populations de pies, et c'était totalement invisible chez nous, puisqu'on voyait tout le temps des pies. Or, quand on s'y est intéressé, effectivement, il y avait moins de pies.
Mais vous, cette situation, ça vous a créé des nœuds dans la tête, parce qu'en fait, vous aviez une formation d'agriculteur, puis vous êtes retrouvé à faire un service civique à la LPO, la Ligue de la Protection des Oiseaux, et ça a changé complètement votre vision des choses.
Quand je travaillais à la LPO, on essayait de travailler sur ces questions d'agriculture, mais c'était extrêmement compliqué, et ça allait toujours extrêmement compliqué. On met beaucoup d'énergie pour la profession d'agriculteur, et les enjeux de l'agriculture, c'est quelque chose qui est... Les agriculteurs qui travaillent sont souvent pieds et mains liés avec les choix, avec la politique qui est mise en œuvre. D'une certaine manière, le premier problème, c'est la politique agricole. On a pris le choix, juste après la guerre, de changer complètement le modèle agricole français et européen. On passe d'une agriculture vivrière où on a hérité d'habitats extraordinaires. Par contre, voilà, c'était une agriculture où les agriculteurs se nourrissaient principalement de ce qu'ils produisaient et commerçaient peu. Hein, c'était moins ouvert sur faire des points de PIB qu'aujourd'hui. À une agriculture industrielle qui a nécessité de mettre tout ça au diapason. Et donc, c'est passé déjà par un premier truc qui s'appelle les remembrements agricoles. Donc, les campagnes, on se demande encore d'ailleurs comment il y a des oiseaux. D'ailleurs. Si on avait les indicateurs du muséum, les mêmes indicateurs, si on les avait débutés dans les années 40, je pense qu'on serait halluciné de la situation. Moi, je discutais avec mon grand-père de ce que c'était la campagne, de ce que c'était que garder les chèvres dans les campagnes et les sainfoins avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des cailles qui s'envolaient de partout. Les enfants s'amusaient tous à attraper des alouettes. Et ça grouillait, littéralement, ça grouillait.
Il y a d'autres coupables, Frédéric Giguet, la déforestation, la chasse, le changement climatique.
Il y a beaucoup d'autres pressions. Je pense que pour compléter aussi sur l'agriculture, il y a tout ce qui va être, on va dire, la course technologique. Vous parliez de Rachel Carlson qui alertait sur les méfaits d'un pesticide qui faisait disparaître les rapaces. Mais on est dans un système où on dit « Ah, celui-ci pose problème, c'est pas grave, on vient d'en inventer un autre. Et puis si celui-ci, on va mettre 10 ans à s'apercevoir qu'il pose problème, mais on en a un autre. » Et on arrive comme ça jusqu'aux néonicotinoïdes aujourd'hui, où on les retire parce qu'on s'aperçoit que ça tue tous les insectes, et pas que les insectes cibles, toutes les abeilles. Mais il y a un problème sur les betteraves, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions, donc on va les réautoriser, puis peut-être aussi sur d'autres. Enfin voilà, on est aussi dans un système où on pense que les inventions technologiques vont toujours nous sauver. On fonce droit dans le mur et on y va de plus en plus vite à chaque fois qu'on trouve une nouvelle molécule, elle est... Les molécules de pesticides, les tests qui sont faits doivent l'être faits par celui qui l'a produit et qui va la commercialiser. Il n'y a pas du tout d'indépendance sur cet aspect-là. Voilà. Et au-delà de ces pressions, il y en a beaucoup d'autres. Pour pouvoir nourrir tout le monde, on va grignoter sur la forêt. Pour pouvoir loger tout le monde, on va augmenter la taille des villes, des villages, des habitations. Alors de la même manière qu'on exploite les plantes pour se nourrir, on a aussi une exploitation des animaux par l'élevage, mais on a aussi une exploitation d'animaux sauvages pour des questions de loisirs, notamment la chasse. Alors la chasse est rarement responsable de l'extinction d'espèces, mais la chasse peut contribuer à mettre en danger des espèces.
Et pourtant les chasseurs disent qu'ils régulent les populations.
Je pense que c'est encore une question de politique, comme pour l'agriculture. Sauf que les chasseurs ne sont pas victimes, mais ils entendent un discours d'élus qui défend tout à tout prix, sans vouloir rien céder, par peur de perdre beaucoup si jamais on respectait un peu plus la nature. On a aussi un discours qui est que finalement les chasseurs sont ruraux et qu'eux connaissent la nature et savent, contrairement aux experts qui habitent dans les grandes villes et qui pensent pouvoir décrypter ce qui se passe dans la nature. Alors moi j'aime bien rappeler que mon grand-père était paysan, je suis un montagnard et j'ai une formation d'ingénieur agronome. Du coup, j'ai un petit peu les pieds sur terre quand même et je suis surtout passionné par les oiseaux depuis tout petit. Et je vous invite en fait à vous mettre à la place d'un oiseau. Alors, ils ne perçoivent pas du tout leur environnement comme nous, mais imaginez quand vous allez vous promener dans Marseille ou aux alentours ou dans les campagnes, regardez l'environnement autour de vous et dites-vous que vous êtes un animal sauvage, vous n'êtes pas un humain. Et finalement, vous allez vous apercevoir que tout est façonné par l'homme. Il n'y a plus, quasiment plus d'espace sauvage où un animal sauvage peut se dire « ici, ça n'a pas été modifié par l'homme ». Quand on se rend compte de ça, on se dit « mais il y a 350 espèces d'oiseaux qui nichent en France, et il y a une espèce, l'humain, qui a façonné, modifié complètement tout ». L'environnement, ça fait prendre conscience de la responsabilité que l'on a dans tout ce qui est en train de se passer.
Il y a quand même beaucoup de charges contre l'humanité à ce stade du procès, mais on va essayer de trouver des circonstances atténuantes, parce que nous avons quand même développé au cours de notre histoire des liens particuliers avec les oiseaux. Ils peuplent notre imaginaire, nos contes, nos légendes, nos mythes, et nous les observons souvent quand même... avec émerveillement, comme en attestent d'ailleurs les collections de nos musées. Et j'appelle à la barre Françoise Dalmagne, qui est chargée de recherche et de collection au MUCEM.
Bonsoir.
Alors, pour ce procès sur les oiseaux, comme pièce à conviction, j'aurais pu vous amener mon chat. On a parlé du chat, puisqu'il se dit que nos félins domestiques contribuent par leur instinct de chasseur à la diminution des nombres des oiseaux. J'aurais pu vous amener aussi l'un de ces innombrables pièges que l'on trouve dans les collections du MUCEM. Alors, pièges à ortolans, à chouettes, à merles, à moineaux, à vanneaux. Mais j'ai préféré vous apporter cet objet délicat qui attire la curiosité. Il s'agit d'un nid de bélier, c'est-à-dire un oiseau tisserin qui a été ramassé sur l'île de la Réunion car il était tombé au sol et qui est rentré dans les collections du musée en 1998. Donc l'oiseau tisserin, c'est un oiseau passereau dont la population se porte bien, contrairement à d'autres oiseaux dont on a parlé, et qui mérite quand même l'attention par la délicatesse et l'ingéniosité des nids qu'il construit, d'où son nom d'oiseau tisserin. C'est une espèce où le travail est genré. Il s'agit du mâle qui construit le nid et la femelle le décore pour en faire un nid douillet pour ses œufs puis ses petits. L'oiseau tisserin mâle utilise une sorte de technique de tissage en réalisant de nombreux nœuds compliqués pour fabriquer son nid en forme de cœur parfois, comme celui-ci, ou parfois d'autres bien plus grands, comme sur ses cartes réclament. Il élabore ses nids avec une entrée par le bas, à la fois pour se protéger des prédateurs, mais aussi pour se protéger des intempéries. Il sait d'ailleurs « climatiser » entre guillemets son nid, faire diminuer la température du nid en cas de forte chaleur ou au contraire l'augmenter s'il fait froid. Les colonies d'oiseaux tisserins font aussi des sortes d'habitats partagés en reliant de nombreux nids les uns aux autres. C'est en fait un petit architecte écologique. Les oiseaux, de par leur façon d'être au monde, nous enseignent en effet un art de vivre des plus respectueux et des plus profonds aussi. Et puis, cette pratique de tissage de l'oiseau tisserin s'apparente à une pratique textile qui est pour l'espèce humaine en général dévolue aux femmes. Et là, en l'occurrence, chez l'oiseau tisserin, c'est le mâle qui tisse, qui tricote. Et c'est la femelle qui choisit le mâle, justement, en fonction de ses aptitudes et de son ingéniosité.
Merci Françoise. Alors Frédéric Gillet, Sébastien Blache, c'est quand même un peu des circonstances atténuantes, cette manière que nous avons de conserver comme ça des pièces à conviction dans nos musées pour garder la mémoire de ces oiseaux ou pas ? Est-ce que ça peut nous aider un peu à, je sais pas, par l'émerveillement par exemple, à mieux les conserver, mieux les considérer, mieux les protéger ? Est-ce je ne me sens pas très convaincu.
Non, ce n'est pas plutôt de la psychopathie de tueur en série, de garder des restes de chaque victime. Non,
je cherche des circonstances.
Mais non, il y en a plein des circonstances qui sont que on va dire, l'humanité entière est responsable parce que c'est le développement de l'espèce humaine qui dégrade tout et qui prend la place d'autres espèces. Parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on invente plus de choses, parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on est doué de conscience, mais on ne se limite pas aux ressources disponibles, peut-être. On ne réfléchit pas assez ou trop, et on a tous envie d'être heureux et partout. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas, et pourtant, je suis sûr qu'en cherchant, et avec plein de données, on va arriver à trouver des solutions, des circonstances atténuantes, de l'espoir. Et il faut surtout associer à ce discours alarmiste de « c'est tout noir, ça va mal, les oiseaux sont en déclin », ah oui, mais nous avons identifié des solutions qui fonctionnent. Elles peuvent être locales, très fonctionnelles, très pertinentes, mais, et on sait comment faire. Il y a des espaces protégés, les réserves naturelles, l'agriculture bio, etc. Et il y a des expériences ou des changements conceptuels aussi dans l'agriculture qui donnent de l'espoir.
Justement, Sébastien Blache, c'est un travail colossal hein, de modifier les pratiques, mais c'est ce que vous faites au quotidien à la ferme du Grand Laval que vous gérez dans la Drôme. Expliquez-nous comment, en quelques mots.
Ben, en fait, il y a deux choses qu'on essaie d'appliquer. La première, c'est une agriculture de bon sens. De bon sens, ça veut dire qu'il fait appel un peu à des notions d'écologie. Si on réfléchit juste un tout petit peu, qu'est-ce qui fait l'abondance et la richesse des écosystèmes ? Ben, c'est... deux, trois notions comme, par exemple, plus vous avez d'habitats différents à un endroit et plus vous avez d'espèces différentes qui y habitent. Et plus cet habitat est connecté, plus il y a de la fonctionnalité et ces espèces peuvent vivre. Bon, ben, si vous mettez ça en place sur une ferme, il y a des choses qui se passent. Et ce qui nous a paru intéressant, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un modèle agricole qui est capable de le produire lui-même sans qu'on soit un paysan naturaliste? Et il y a un modèle qui fonctionne et qui naturellement crée ça, c'est la polyculture-élevage. La polyculture-élevage est en agriculture biologique. Si vous avez des bêtes, vous avez besoin de fourrage. Mais si vous êtes en polyculture-élevage, ça veut dire que vous ne faites pas que de l'élevage. Donc vous avez peut-être un petit peu d'arboriculture, un petit peu de légumes secs, un petit peu d'autres choses. Et donc vous avez une diversité d'habitats que vous devez protéger du vent par les haies, que vous devez protéger les animaux, les faire pâturer, donc avoir une bande enherbée, avoir des mares parce que vous abreuvez vos animaux. Et en fait, ces paysages-là, c'est les paysages de nos aïeux, en fait. Là, l'idée, ce n'est pas de revenir, de se dire, ben voilà, l'agriculture qui était bien, c'était l'agriculture d'avant. Mais l'agriculture qui s'est produite, qui s'est faite pendant très très longtemps, donc la polyculture élevage sur des toutes petites fermes, c'était une agriculture qui était hyper efficace en vrai.
Et vous, vous avez 50 hectares quand même. Alors,
nous, on a 50 hectares parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on a besoin d'un peu de surface pour pouvoir vivre. Parce que si vous voulez, le kilo de pommes, ça ne coûte pas assez cher pour pouvoir vivre avec 3 pommiers. Un paysan, aujourd'hui, il est dans le même monde que vous, quoi. Et nous, il nous faut des salaires qui soient à peu près les mêmes que vous. On roule dans les mêmes voitures. On n'a pas des chevaux et des charrettes, quoi. Et nous, on a choisi cette voie-là, la voie de l'antagonisme. L'antagonisme, c'est une règle en écologie qui dit que plus vous avez de diversité d'espèces, moins vous avez des espèces qui pullulent et qui peuvent prendre la main sur l'écosystème. Et cet antagoniste sur la ferme, on essaie de le mettre en place par notre modèle et par tous les habitats qu'on crée, qu'on partage. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec notre ami Baptiste Morisot, le réensauvagement paysan. Le réensauvagement paysan, c'est créer des haies, mais des haies qui seront là pour être des haies, quoi. C'est tout, pas pour être des pourvoyeurs de biomasse, pour faire tourner des chaudières à masse. Non, c'est vraiment faire un écosystème qui cohabite avec nous et qui nous permet d'échanger avec cette faune et donc les oiseaux, par exemple.
Et sur 17 hectares, par exemple, vous avez créé une mare par hectare.
Voilà, le truc qui est très très important, c'est que quand vous créez un habitat qui a un intérêt, qui a un rôle, qui est censé dans votre modèle agricole, il faut que cet habitat soit très présent. Sinon, cet habitat, c'est un petit placebo, quoi. Mais il ne va pas produire son effet d'habitat. Et on a créé, par exemple, effectivement, l'exemple, c'est 17 mares. 17 hectares sur une zone, 17 mares. Donc, vous avez des mares partout maintenant. Eh bien, en 3 ans, là, on sort des oiseaux, mais c'est quand même, ça vole, c'est une libellule, on n'est pas loin. Eh bien, en 3 ans, on a observé 50% des espèces de libellules observables en France sur la ferme. Sachant qu'avant, il n'y avait pas ces mares.
Revenus.
Oui, c'est la capacité qu'a quand même. Et les oiseaux, ben, on le voit, nous. Il y a des espèces où il y a encore, heureusement, un peu de migration, des mouvements, des oiseaux qui cherchent, des écosystèmes, et qui, de temps en temps, ben, arrivent chez nous, trouvent, et ça marche, et ils se développent.
Alors justement, vous êtes venu, vous aussi, avec des pièces à conviction. Je propose qu'on voit la première pièce à conviction, qui a été une source d'émotion pour vous. C'était en mai dernier.
En fait, il y a un écosystème en milieu agricole qui est devenu probablement un des écosystèmes les plus rares, c'est les prairies humides. Les prairies humides, c'est ces zones pâturées dans lesquelles c'est des zones qui sont liées à la présence des marées ou des zones d'épanchement des crues. Et tout ça a été drainé parce que c'est des terres les plus riches, en fait. Donc ça a été drainé pour faire de l'agriculture. Et là, il y a des espèces. C'est très riche, il y a énormément d'espèces. Et il y a des espèces d'oiseaux qui nichent dans ces prairies humides, qui sont comme cet oiseau. Là, par exemple, c'est l'exemple, on parle de la marouette ponctuée. Donc la marouette ponctuée, c'est un oiseau, quand vous êtes ornitho, on les voit tous dans les bouquins, c'est compliqué à observer, c'est toujours caché, mais en nicheur, c'est encore plus compliqué. Nous, aujourd'hui, en vallée du Rhône, bien malin celui qui sait où peut nicher une marouette ponctuée. Donc on ne s'attendait pas vraiment à ça. En inondant nos prairies, on avait ça un petit peu dans le coin de la tête. On se disait, oh, peut-être qu'un jour, en migration, quoi. Et bien là, cette année, en migration, on a observé une marouette. Mais non seulement elle s'est arrêtée pendant sa migration, mais en plus, il y a un couple qui a été capable de se former et de se reproduire. Et là, ce qu'on observe, c'est deux jeunes qui ont passé tout l'été sur la ferme avec nous, avant de partir. Voilà. Donc ça, ça a été pour nous quelque chose d'assez incroyable. Et c'est assez stupéfiant, parce que des exemples comme ça, on en a plein. Et en fait, du coup, ça nous fait bien quand même comprendre que ce n'est pas encore totalement tout foutu, quoi. Il y a encore un peu de résilience. Si les habitats sont là, il y a encore un peu de répondants.
Alors tout à l'heure, Frédéric Giguet disait 85% des tourterelles ont disparu. Et là, on va regarder votre seconde pièce à conviction.
Voilà. Alors regardez sur son dos. Vous voyez qu'elle a une petite antenne sur le dos.
C'est une tourterelle balisée.
Alors c'est une tourterelle des bois balisée. C'est une tourterelle des bois. Pourquoi j'ai mis cette pièce à conviction ? Parce que je savais que Frédéric venait. Et en fait, c'est un travail qui est mené par Frédéric. Donc, vous avez bien compris que Frédéric avait un problème avec la tourterelle des bois. Et donc, j'ai voulu amplifier ce problème en lui montrant une nouvelle pièce à conviction. Donc, normalement, il se met à danser et il fait des parades et à roucouler. Mais il va peut-être le faire, hein, mais il faut insister un peu.
Frédéric, vous nous faites une petite parade de tourterelle des bois ?
Non, pas tout de suite.
Non, vous ne le sentez pas, là.
C'est de
ça
l'eau,
pourrait
en fait.
Aider hein, pour...
Nous auriez mis du pastis,
voilà,
je sais.
Du pastis. Ah, oui. Non, et pourquoi j'ai mis cette tourterelle ? Parce qu'effectivement, bah, la tourterelle des bois, bah, nous, on l'a constaté sur la ferme. Quand on a repris la ferme, il n'y avait plus de haies. Il n'y avait plus de tourterelle des bois. Et on en entendait dans la plaine, bien évidemment, à quelques endroits. Et depuis que les haies sont de nouveau dynamiques, et puis surtout que les habitats sont diversifiés, eh bien, les tourterelles reviennent. Et avec Frédéric, donc, il a un programme assez extraordinaire qui nous fait vraiment voyager et rêver. Il équipe des tourterelles des bois avec des balises pour connaître la voie de migration et la zone d'hivernage. Et donc, ce mâle de tourterelles, on l'a équipé donc, d'une balise il y a maintenant 2 ans. On a pu comprendre qu'en fait, il restait sur la ferme, mais c'est incroyable parce que ils sortent quasiment pas de la ferme. Alors c'est hyper satisfaisant et c'est un peu angoissant. Parce que vous dites, autour, c'est vraiment nul quoi, pour
les tourterelles des bois.
Mais par contre, après, une fois partis en migration, on a pu les suivre, voir toute leur voie de migration. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, que c'est tourterelles des bois, mais comme tous les oiseaux, c'est juste absolument incroyable le voyage de migration qu'ils vont entreprendre. Là, en ce moment, à l'heure qu'on est, parce que celle-là, elle est repartie en migration. Hein. Ça fait 2 ans qu'elle est... Elle est au Niger, dans une forêt, et elle s'est traversée tout le Sahara, 100 grammes, en migration, en partant de la ferme. Elle s'est envolée, elle est allée à Montélimar. Les conditions n'étaient pas bonnes. Le lendemain soir, à 8h du soir, elle s'envole, et à 6h du mat, elle se posait sur les îles Baléares. Et là, elle a fait ça d'une seule traite. Et après, avec l'ensemble des données, ben, on voit que ça, c'est vol comme ça, de 500-600 km, c'est toutes les nuits que ça va se passer. Pendant une semaine pour atteindre le Niger. Et au retour, c'est la même chose. Donc cet oiseau-là, vous voyez, vu ce qui se fait chaque année, lui mettre un coup de fusil pour que ça termine dans une rôtie bardée de lard, sans avoir compris ça, il y a un problème, quoi.
Alors la bonne nouvelle, c'est que la chasse à la tourterelle des bois est interdite en France, en Espagne et au Portugal depuis 3 ans, Frédéric Giguet.
Depuis 2021, il y a un moratoire. Alors qu'on a mis en place en France un peu avant, dans la douleur, et qui a été mis en place en Espagne et au Portugal aussi.
Le problème, c'est qu'en parallèle, se sont développées des agences de voyage pour aller chasser les tourterelles là où la chasse est autorisée.
Alors, c'était déjà le cas avant, notamment au Maroc, où il y a des fermes de chasse. Il y a beaucoup aussi de tourterelles qui nichent au Maroc. On pourrait imaginer, alors on sait qu'il y a des chasseurs français passionnés qui du coup vont aller dans ces pays pour chasser cet oiseau. A priori, même si ça existe, en tout cas ça n'a pas empêché la remontée de 25% des effectifs en Europe de l'Ouest.
Sébastien Blache, vous vous sentez seul parfois, vous le disiez, dans votre environnement. Du coup, avec le philosophe Baptiste Morisot, vous avez créé l'association Réensauvager la ferme et le réseau des fermes paysannes et sauvages, qui sont des laboratoires d'expérimentation, parce qu'en fait, il faut changer d'échelle.
En fait, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est qu'on ouvre la ferme à des visites, à des rencontres avec d'autres paysans, et qu'il y a déjà plein de paysans qui sont très intéressés par ces questions-là, mais qui ne sont pas forcément des naturalistes. Alors, il existe une association qui s'appelle Paysans de Nature, qui rassemble des agriculteurs naturalistes chevronnés pour la plupart, même si maintenant c'est peut-être un petit peu moins le cas, nous on en fait partie. Donc c'est déjà très optimiste d'avoir un réseau de paysans qui s'engagent vraiment très fortement sur ces questions-là. Et puis nous, on rencontre dans notre région aussi plein de gens qui viennent nous voir, qui sont des maraîchers, des éleveurs, des arbots, et qui ont envie de faire des choses. Et de là, on a eu l'idée de créer une association avec Elsa qui s'appelle les Fermes Paysannes et Sauvages. Donc il y a le terme sauvage qui est un terme de philosophie qui est lourd de sens en fait. Hein. Utiliser le terme sauvage en agricole, moi ça m'a valu d'aller à la Confédération Paysanne à un colloque et d'être pas à lyncher mais à pas loin parce que c'est très très négativement connoté par le monde agricole, le sauvage. Et le réensauvagement encore plus. Donc du coup, nous, il a fallu qu'on explique ce que ça voulait dire, le réensauvagement paysan, qui pour moi fait partie des choses un peu universelles qui pourraient être un geste commun. En gros, ça veut dire laisser certains écosystèmes fonctionner tout seuls. C'est tout. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. On a un peu réinventé l'eau tiède. Là. Mais ça fait toute la différence. Vous plantez une haie, laissez-lui vivre sa vie de haie. En fait. Et ensuite, créer une association des fermes paysannes et sauvages, ça permet de se mettre tous ensemble, de se sentir plus fort, d'assumer nos choix. Quand vous décidez de planter des haies alors que tout le monde a arraché les haies, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui vous regardent encore avec des gros yeux en disant « qu'est-ce que c'est que ce gaspillage de terre ?» Quand vous décidez de planter des mares sur des parcelles qui ont été remembrées par votre grand-père 40 ans avant, je peux vous dire, vous ne savez pas si vous êtes dans le registre de la profanation ou au contraire de la protection de la nature. Vous voyez, moi, il y a des anciens qui me regardent avec des yeux du luberlu, quoi. On est un petit peu ceux qui cassons tout dans la plaine, quoi.
Forte pression sociale.
Voilà, donc ça, eh bien, en fait, en se rassemblant, on est plus fort. On est une vingtaine de fermes, quand même, hein. C'est pas rien, sur lequel on s'appuie, on discute, on échange. Cette année, c'est l'année des coprophages. En gros, c'est l'année du bousier. On s'est donné des thèmes. Donc, vous voyez, comme terme, le bousier dans une ferme, c'est quand même un drôle de thème. Eh bien, c'est l'occasion d'échanger, de voir pour nous, les éleveurs, qu'est-ce que ça veut dire, les traitements des animaux, l'impact d'avoir des bouses qui ne sont pas polluées, et donc tous ces insectes qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Et donc, du coup, vous savez, quand vous avez un agriculteur qui, d'un seul coup, prend conscience de ça, et qui se met à avoir les yeux qui brillent face à un bousier qui sort d'une bouse, eh bien, c'est gagné. Et on en a, en fait. Et vous ne pouvez plus ensuite utiliser un traitement chimique dont vous connaissez la nocivité comme ça, en fait. Ça vous perturbe. Nous, on a des copains qui ont mis des nichoirs dans des vergers de pêchers qui étaient traités chimiquement. Et les agriculteurs, quand ils sont arrivés avec leurs atomiseurs et qui savaient qu'il y avait des mésanges, ils ne savaient plus quoi faire. Parce que là, d'un seul coup, vous faites quoi ?
Voilà, ce sont des initiatives comme la vôtre qui, à l'heure de ce procès, sont quand même de formidables circonstances atténuantes. Et pour compléter ce tableau, j'appelle un second témoin à la barre, un témoignage qui a aussi été réalisé par la commission d'enquête du MUCEM.
Je m'appelle Fleurette Paradis. J'habite dans un grand bungalow avec jardin depuis 1957 dans la banlieue de Montréal. On dit parfois que mon lieu de vie est à l'image de mon nom. Un petit jardin d'Éden rempli de parfums puis de fleurs. Contrairement à mes voisins qui chérissent leur carré de garçon bien vert, parfaitement taillé, et croyez-moi, ils sont parfaitement taillés, moi je préfère l'abondance désorganisée des couleurs. C'est vrai que dès que je suis arrivée ici, j'ai planté tout ce que je pouvais planter. Et pas que des roses, pas que des fleurs pour faire joli. Hein. Dans ma cour, il y a aussi deux vieux pommiers tordus dans lesquels j'accroche des mangeoires l'hiver pour les oiseaux. L'été, ils peuvent venir se servir dans tout ce qu'ils veulent. C'est open bar. C'est pour eux, c'est cadeau. Un peu pour moi aussi, mais juste un peu. Il faut dire que j'ai une relation très particulière avec les oiseaux. À chaque décès d'un de mes proches, je reçois la visite d'un oiseau. Vous me direz sûrement que j'en vois tous les jours, mais je peux vous jurer que là, c'est différent. C'est une visite à laquelle je prête beaucoup d'attention, comme un cérémonial, un dernier adieu. Parfois, j'oublie l'existence de ce rituel, puis la vie, ou plutôt la mort, me surprend. Au décès de ma grand-mère, par exemple, j'étais très préoccupée par les préparatifs de la cérémonie funéraire, la maison à vider, les papiers du notaire. Je m'agitais beaucoup, je dormais peu. Je prenais même pas le temps de boire mon café au jardin. Eh bien, c'est finalement le jardin qui est venu à moi. Ça a commencé dans la cheminée. Il y a eu des bruits qui m'ont fait sursauter. J'ai fait le saut parce que je l'utilise plus depuis des années. J'ai même installé deux petites portes à l'entrée du foyer pour couper le froid. Donc, je savais pas ce qui se tramait là-dedans. J'ai d'abord cru qu'il y avait un écureuil qui venait se réfugier. Je me suis rapprochée pour écouter. Il n'y avait pas de grattement. C'était donc pas un rongeur. Il m'a plutôt semblé entendre un battement d'ailes. Lorsque j'ai ouvert les petites portes, j'ai découvert une hirondelle qui me regardait, qui s'est laissée prendre. Elle était calme, calme, calme. Ça m'a tout de suite apaisée. Combien de temps on est resté comme ça, elle et moi, je sais pas. Le temps s'est arrêté. C'était le dernier moment avec ma grand-mère. Mon voisin Henri, lui, il est historien. Il dit plutôt qu'il est archéologue des médias. Il sait que j'adore les oiseaux. Il m'a raconté qu'au 19e siècle, les canaris avaient littéralement envahi les salons des maisons bourgeoises. C'était avant l'arrivée des gramophones puis des phonographes. Les canaris avaient le rôle de divertir les gens en occupant l'espace sonore, un peu comme on allume la radio aujourd'hui ou qu'on se met des écouteurs en allant se promener dans le bois. Ce qui est un peu absurde quand on y pense, parce que quand on se met des écouteurs, ben on n'entend plus le chant des oiseaux. Bref, au 19e siècle, on dressait les canaris en leur apprenant des airs connus. Il y avait toute une économie basée là-dessus. Il y a même certains canaris qui étaient entraînés pour reproduire les bruits de la nature, de l'eau qui coule sur des rochers, par exemple. Cette histoire de canaris, elle me perturbe complètement, parce que chanter, pour moi, ben ça se fait pas dans une cage. Il paraît d'ailleurs que si ces oiseaux-là étaient relâchés dans la nature, leur chant pouvait plus séduire du tout les autres membres de leur espèce, ce qui est complètement dénaturé l'une des raisons du chant des oiseaux, faire relation avec leurs congénères. Moi, j'adore chanter. Je suis loin d'être une soprano colorature, mais je me laisse souvent aller à la chansonnette quand je jardine. J'ai l'impression d'être un peu la choriste des oiseaux de ma cour. Merci.
Fleurette Paradis, merci beaucoup. Eh bien, c'est la fin de ce procès qui approche. Voici l'heure du jugement, parce que c'est un procès, après tout. Alors, que disent nos experts, finalement ? Partiellement coupable, mais en voie de rédemption, l'humanité, ou faudrait des millions d'heures de travaux d'intérêt général, ou quel est votre jugement, finalement, pour conclure ce procès ? Allez, Frédéric Giguet.
Forcément coupable. Et forcément, une des seules chances de s'en sortir aussi. Donc, on ne va pas, peut-être pas condamner tout le monde, mais on va le faire quand même pour inciter les gens, en tout cas la société, les gens de bonne volonté, à être mieux écoutés et à pouvoir changer le modèle global.
Sébastien Blache.
Je pense que je vais proposer du travail d'intérêt général.
Hein ? Intensif.
Intensif, parce que en fait, je pense qu'il y a du boulot et je vois un petit peu ce que je vais condamner et proposer à certaines tâches. Ouais.
Merci messieurs en tout cas pour votre expertise. Merci à nos deux témoins, à Françoise d'Allemagne aussi pour la présentation des pièces à conviction du Mucem. Si vous avez la chance de passer par Marseille lundi prochain, vous pourrez assister à un nouveau procès du siècle dans l'auditorium du Mucem sur le thème « L'humour engagé peut-il nous réconcilier ?». Merci à Béatrice Goudard du Mucem pour l'organisation, à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons lundi prochain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.